Bonjour à toutes et à tous. Depuis le début de la semaine, Radio Pays d'Hérault et RPH Sud se consacrent aux Journées européennes de l'archéologie, lancées pour la première année par la communauté de communes Vallée de l'Hérault à l'ancienne abbaye d'Agnan. Un programme complet se tiendra le week-end du 19 et 20 juin. Marie Christiani, chargée du patrimoine archéologique de la CCVH, est avec nous pour nous expliquer l'une des périodes les plus obscures de l'abbaye d'Agnan, quand c'était une prison pour adultes et mineurs. Bonjour Marie Christiani.
Bonjour à tous.
Alors, en 1800, alors effectivement, c'était une prison pour adultes et enfermement des mineurs, c'est ça ? Peut-être repréciser en fait, mon propos.
Ouais, parce que là, on dirait que les adultes et les mineurs ont été enfermés en même temps, alors que non, ce sont deux périodes bien distinctes. On a parlé hier de l'enfermement des adultes, donc entre 1845 et 1885. Et en 85, l'administration pénitentiaire décide de reconvertir la maison centrale pour adultes en colonie pénitentiaire pour mineurs, donc prison pour mineurs, prison pour enfants.
Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Donc là, c'est en 1885, donc là, ce sont, voilà, c'est un centre pénitentiaire pour mineurs.
Tout à fait.
Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
En fait, là, il y a une autre colonie pénitentiaire, donc agricole, à Mont-Lobre, donc sur la commune de Vaillocès, qui ferme. Et donc, il faut trouver de nouveaux bâtiments pour accueillir les jeunes qui étaient enfermés, donc à Vaillocès, et c'est l'ancienne abbaye d'Agnan, ancienne maison centrale, qui est choisie pour accueillir ses enfants et donc cette colonie pénitentiaire. Car c'est un lieu, comme on l'avait déjà dit, qui se prête tout à fait à la gestion d'une vie en communauté et qui est pratique pour installer une prison, vu que les moines, eux-mêmes à l'époque, vivaient dans une communauté fermée, refermée sur elle-même.
Et d'où venaient en fait tous ces jeunes ? Vous parlez effectivement de la colonie privée agricole de Mont-Lobre, sur la commune de Vaillocès. Donc en fait, ils viennent de différents endroits ou spécifiquement de cette commune ?
Non, ils peuvent venir d'un peu partout en France. En fait, il faut se dire qu'à l'époque, il y a plusieurs maisons de correction ou colonies sur tout le territoire. Et en fait, les jeunes sont envoyés... Alors, ça doit être sans doute en fonction des places disponibles et en fonction des délits, par exemple, qu'ils ont commis. Ils sont envoyés dans différentes colonies. Et on sait qu'à Agnan, à l'origine, donc à partir de 1885, on accueille donc des mineurs, donc des garçons uniquement, parce qu'il y avait aussi ce genre de colonie ou maison de correction pour filles. Donc ici, il s'agit d'une colonie pour garçons. Donc des mineurs de moins de 18 ans qui ont été acquittés de leur délit ou de leur crime parce qu'on les a reconnus, on a reconnu qu'ils avaient agi sans discernement. Donc, une fois que... Alors, ce sont quand même, du coup, des délinquants dont on a jugé qu'ils n'étaient pas discernants au moment où ils ont commis leur délit ou leur crime. Ils auraient pu être remis à leur famille, mais bien souvent, les familles ne peuvent pas ou ne veulent pas les récupérer. Et donc, ils sont placés par la justice dans ces institutions.
Et est-ce qu'on connaît le type de délit que faisaient ces jeunes ?
Oui, ça va... Alors, ça va du vol, donc délit au... Ça peut aller jusqu'au meurtre pour certains. Ce ne sont pas des anges. Par contre, il faut bien avoir en tête qu'il n'y a pas que des délinquants et que des criminels dans ces institutions. Il y a aussi des jeunes qui sont des pupilles de l'assistance publique et qui sont placés par l'assistance publique dans ces lieux. Donc en fait, sont mélangés des délinquants, mais aussi des jeunes qui sont simplement parfois des vagabonds, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de famille et qui traînent un peu dans les rues et hop, on les récupère et puis on les place dans ces institutions-là. Voilà, ce qui fait que ce sont des lieux où il y avait quand même beaucoup de violence et où certains jeunes qui étaient là simplement parce qu'ils étaient orphelins, par exemple, se retrouvaient confrontés à d'autres jeunes qui, eux, avaient fait des choses grave, voire très grave.
Donc il y a une forme d'injustice un peu dans ce
lieu-là. Disons que l'abbaye d'Agnan et l'institution de l'enfermement des mineurs à Agnan est vraiment le reflet de l'évolution de la justice pour les mineurs entre la fin du 19e siècle et la fin du 20e siècle. Donc on constate au départ que les conditions de détention sont très, très dures, que les enfants donc, sont mélangés. Heureusement, à partir de 1912, il est interdit d'interner des enfants de moins de 13 ans dans les maisons de correction. Donc ce qui veut dire qu'avant 1912, il y avait des jeunes, des beaucoup plus petits qui étaient mélangés à des jeunes de 18 ans. Enfin, voilà, donc un sacré mélange des genres où régnait un climat quand même de violence. Alors, violence entre les jeunes, violence qui émanait des matons en direction des jeunes, mais violence également à l'inverse, qui émanait des jeunes qui ont pu se révolter à plusieurs reprises. On sait qu'il y a eu des agressions contre les surveillants, des mutineries. Mais voilà, donc on est dans un climat très, très difficile.
Donc là, c'est début 1900, en fait.
À la fin du 19e, donc 1890, et au début des années 1900.
Et alors, donc, il y a des conditions difficiles pour les jeunes dans cette abbaye d'Aniane, et puis plus largement, mais en tout cas, comment ça se passe dans cette abbaye?
Eh bien, donc on sait, comme je le disais, qu'il y avait pas mal donc, de violence entre les enfants, avec les matons, les surveillants, etc. Il faut aussi savoir qu'il y a eu jusqu'à 350 colons, donc 350 jeunes, qui étaient enfermés en même temps dans la prison. On sait que niveau hygiène, voilà, c'était pas le top, qu'il y avait des puces de lit, des poux, etc. et que rien n'était fait pour arrêter ces invasions d'insectes.
Et puis j'imagine qu'ils partageaient leur chambre, même si c'était petit, puisque 300
Il y avait ce qu'on appelle les cages à poules. En fait, c'était des énormes dortoirs dans lesquels était installée une structure en bois avec plusieurs petites cellules individuelles, donc toutes petites cellules qui contenaient un lit. Et en fait, c'était un système qui était fait pour éviter la pédérastie nocturne, notamment. Mais ces conditions-là vont évoluer avec le temps parce que les conditions d'enfermement des mineurs évoluent. Il y a des lois qui sont créées pour protéger les mineurs. Notamment en 1945, après la guerre, on ne juge plus les enfants dans le même système que les adultes. On crée la fonction de juge pour enfants et donc ils vont être traités différemment. Et les conditions de détention vont quand même s'assouplir, même si sur le papier, voilà, on sait qu'à Aniane, tout est arrivé un petit peu à rebours, que normalement, à partir de 1945, les conditions doivent beaucoup s'améliorer. On sait par une série de témoignages que ça a mis un petit peu plus de temps à s'assouplir, en tout cas à la colonie d'Aniane.
Et justement, vous avez des témoignages à ce sujet ?
Oui, alors on a pas mal de témoignages écrits, donc soit des enfants qui ont été enfermés à Aniane, qui, une fois adultes, ont écrit leur vie. Il y a beaucoup d'articles de presse, parce que dans les années 30, il y a une campagne médiatique contre les bagnes pour enfants, parce que ces colonies-là, voilà, on les appelle des bagnes, hein, on fait travailler les enfants, ça je ne l'ai pas dit, mais il y a des ateliers et les enfants
sont forcés, travail forcé.
Alors, sur le papier, voilà, c'est fait pour leur inculquer un métier, mais bon, reste qu'ils travaillent dans des ateliers, dans des conditions pas idéales. Donc, quand même, ces conditions vont finir par s'assouplir déjà à partir de 1945 et des années 60 où l'établissement devient un internat professionnel d'éducation spécialisée. Et à ce moment-là, on détruit notamment les quartiers cellulaires qui étaient les quartiers où on mettait à l'isolement les jeunes qui étaient vraiment trop, trop difficiles. Donc, on démolit ces quartiers-là, on agrandit les chambres. On démolit les cages à poules, justement, pour faire des petites chambrettes un peu plus vastes.
Quelles sont vos ressources sur cette époque de l'abbaye d'Aniane ?
Alors, si vous voulez que je raconte un ou deux témoignages, on a par exemple donc, des témoignages d'anciens détenus qui racontent, notamment un qui raconte son arrivée à Aniane. Il arrive dans la cour de promenade, et il voit deux détenus, donc deux enfants qui sont en train de se battre. À ce moment-là, il se dit, bon, les surveillants vont forcément intervenir pour les séparer. Donc les surveillants interviennent, oui, mais pas pour les séparer, mais au contraire pour les engager à se battre jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe KO au sol. Et voilà, et dans ce témoignage, il se dit très choqué de l'attitude des matons, qui normalement devraient séparer les jeunes. Donc c'est un témoignage des violences qui pouvaient se produire entre ces murs. On a ensuite d'autres témoignages qui donnent un point de vue différent et qui nous permettent aujourd'hui de contraster un petit peu tous ces témoignages et de comprendre que les choses, comme dans la vie, ne sont pas toutes blanches ou toutes noires. Donc on a aussi des témoignages du début du XXe siècle, donc 1902. On a un article de presse qui vante les mérites de l'institution d'Anyan, le journaliste qui fait une visite et qui trouve que les locaux sont très adaptés à l'éducation des jeunes, etc. Donc voilà, après, il faut nuancer entre le projet sur le papier de colonie industrielle où on cherche à faire travailler les jeunes pour leur inculquer un métier pour qu'une fois qu'ils se retrouvent dans la vraie vie, ils puissent trouver du travail. Et à côté, des conditions de détention, encore une fois.
Et alors, je suis étonnée, vous parlez de colonie, en fait, depuis tout à l'heure.
Oui, c'est le terme qu'on donnait à ces institutions. Donc, en tout cas, jusqu'en 1945, on appelle ça des colonies industrielles ou agricoles, pour celles qui sont des colonies agricoles, donc colonies pénitentiaires pour mineurs. C'est vraiment le terme qu'on donne à ces institutions. Et on se rend compte du changement, enfin de l'évolution du traitement des mineurs, notamment à partir de 1945 et des années 60, où on n'appelle plus ces établissements des colonies pénitentiaires, mais des internats d'éducation spécialisée. Donc on se rend compte qu'avec le temps, on n'est plus sur un système répressif, mais plutôt sur un système éducatif
et pédagogique.
Donc après, ça devient toujours un lieu où sont placés des jeunes délinquants et d'autres jeunes qui sont placés par la justice. Mais on est là vraiment pour les éduquer. L'établissement s'ouvre aussi un peu plus sur l'extérieur. Dans les années 70, par exemple, on construit une piscine, un gymnase, un court de tennis. Les jeunes sont invités, les jeunes d'Anyan, donc les habitants du village, sont invités à utiliser ces infrastructures, par exemple. On essaie d'apporter une ouverture à l'institution et il faut imaginer qu'à partir des années 70, ça fonctionne un petit peu comme un lycée professionnel. Donc il y a des jeunes placés par la justice qui vivent à demeure qui sont internes, parce qu'ils sont placés. Mais il y a aussi des jeunes de l'extérieur qui sont externes et qui viennent assister aux cours et qui le soir rentrent chez eux. Donc il y a une volonté d'inclusion qui est plus forte.
Donc il y a une intéressante évolution.
Bien sûr. Et sachant que l'institution, donc l'ISES, a fermé en 1994, on imagine bien que dans les périodes les plus récentes, on est sur un système un peu de... Oui, donc comme je disais, le lycée professionnel, ça me semble assez approprié pour comprendre ce qui se passait là. On pouvait être formé à un bac, un BEP, un CAP. Et puis, on a aussi là des témoignages de certains anciens jeunes que ça a sauvé, entre guillemets, qui ont pu reprendre une vie derrière avec plus de cartes en main.
À peu près, en tout cas, moins de 10 ans après, l'abbaye d'Anyan est rachetée par la communauté de communes Vallée de l'Hérault. Donc pendant un peu moins de 10 ans, il n'y a aucune activité à l'abbaye d'Anyan.
Il n'y a aucune activité à l'abbaye. Elle est laissée complètement à l'abandon. Elle est squattée, elle est endommagée. Ce qui explique aujourd'hui l'état dans lequel se trouvent les bâtiments et notre volonté de restaurer, réhabiliter le site.
C'est la fin de cet épisode sur l'histoire de l'abbaye d'Anyan. Vous l'aurez entendu et vous pouvez les réécouter en podcast sur rphfm.org. Donc ces épisodes ont été réalisés dans le cadre des Journées européennes de l'archéologie lancées par la CCVH et elles se tiendront le 19 et le 20 juin. Et on finit demain à 9h30 et 12h30 cette fois pour parler de ces fameuses Journées de l'archéologie. Merci Marie-Christiani et à très bientôt.
À demain.